Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour Mathilde.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je viens vous voir aujourd'hui parce que...
Bien aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon fils, qui a une façon de fonctionner un petit peu particulière.
Comment ça se passe pour vous?
Eh ben, comme pour tout le monde, c'est compliqué.
Pire que compliqué, je me pose un peu des questions sur la façon d'éduquer ma fille.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
D'un coup, elle se referme un petit peu. Je veux plus goûter les légumes verts alors que j'adorais ça avant. Je ne veux que des gnocchis, du jambon blanc et des gâteaux au chocolat.
Dans cette première partie de ce nouvel épisode de parentalité dédié à l'éducation du goût, je reçois dans mon cabinet Nikki. Elle évoquera avec nous comment elle sensibilise ses enfants au goût, comment elle gère leur goûter et le sucre dans leur alimentation. Nous accueillerons ensuite Victoire Finaz, la chocologue. Elle s'installera avec nous pour répondre à toutes les questions que Nikki se pose. Bonjour Nikki.
Bonjour Mathilde.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Je suis ravie de venir partager aujourd'hui un peu mes questions autour du sujet de l'alimentation des enfants. Ayant deux enfants de 5 ans et 10 mois, deux petites filles, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup au quotidien. J'ai beaucoup de questions, on est aussi très sollicité par ce sujet au quotidien à travers les médias ou le cercle familial, les amis, voilà. Donc je suis intéressée pour faire un petit point global sur ce sujet.
Donc votre fille aînée qui a 5 ans, est-ce que vous avez mis des choses en place pour éduquer son goût? Comment vous faites ça dans votre quotidien?
Alors, il se trouve que, comme beaucoup de gens, on a eu la période du confinement du Covid. Et il se trouve qu'à ce moment-là, ma grande avait donc 18 mois. On était en plein dans le démarrage de l'alimentation solide. On avait testé déjà pas mal de choses, mais quand on travaille, on a forcément un peu moins le temps d'être vraiment sur ce sujet-là. Et cette période de confinement de plusieurs mois a permis que nous passions en famille tous ce moment autour quand même beaucoup d'alimentation, de la cuisine, ce qui a été vraiment une activité principale à la maison. Et ça nous a permis à mon mari et à moi-même d'éduquer vraiment son palais à travers des petits jeux culinaires, de faire la cuisine ensemble, que ce soit écosser les petits pois pour faire des petits pois carottes ou des choses un petit peu simples comme ça, mais qu'on prend pas forcément le temps au quotidien de faire. Et donc, ça a commencé comme ça. En plus de ça, nous travaillons, mon mari et moi, un peu dans les métiers de la restauration. Donc, c'est déjà un sujet quand même qui nous intéresse et dans lequel on essaie d'évoluer.
Vous étiez déjà sensibilisée à ces questions du goût, de l'alimentation, de bien manger, de choisir les ingrédients, de connaître la composition, ce genre de choses?
Très sincèrement, avant d'avoir un enfant, c'était pas forcément la question principale de notre quotidien. Étant assez gourmand, on n'était pas forcément très regardant toujours sur les produits qu'on pouvait consommer, notamment les produits un peu industriels qu'on peut acheter en grande surface. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a eu un enfant, comme beaucoup de gens, évidemment, on a envie de leur donner le meilleur et de faire plus attention. Et au fur et à mesure, ça a plus été un cheminement, un parcours en fait de réflexion sur l'origine des produits, plus s'intéresser à des produits sains, d'où ils venaient, comment les intégrer, etc. Et donc vraiment de faire du fait maison. Et voilà, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et encore plus, ça s'est accentué avec cette période du confinement où on avait un peu que ça à faire de la journée avec un enfant de 18 mois. Et donc, on faisait beaucoup d'activités autour de ça, de la pâtisserie, des petits gâteaux. Et comme notre petite fille a vraiment été sensible à ça, ça nous a derrière encouragé vraiment à continuer et à voir au quotidien l'évolution de son palais.
C'est des moments qu'elle a appréciés, votre fille, et qu'elle continue d'apprécier aujourd'hui ou même de réclamer?
de cuisiner en famille ?
Tout à fait, parce qu'effectivement, maintenant, elle, depuis qu'elle est toute petite, elle est un peu baignée dans cet univers-là et elle est très, très gourmande. Donc ça, c'est un autre sujet dont on parlera, le sucre, qui est peut-être un peu un problème parfois. Mais en tout cas, c'est vraiment des moments familiaux de partage. Et autour de ça, déjà, c'est très positif comme moment. Elle veut toujours participer au quotidien quand on commence à faire la cuisine ou le week-end, quand on a un peu le temps, qu'on est décontracté autour de ça. Voilà, elle arrive, elle dit « moi, je veux participer, je veux prendre mon petit tabouret et venir vous aider à la cuisine, couper les légumes, etc. » Donc oui, elle aime beaucoup ces moments.
Et vous disiez juste avant, vous voyez l'évolution de son goût. À quoi vous voyez ça ?
Eh bien, pour être tout à fait honnête, j'ai un exemple très parlant. C'est qu'un jour, j'avais préparé, sans qu'elle m'accompagne dans cette préparation, j'avais fait un gâteau et j'avais remplacé le sucre par de la betterave, un gâteau au chocolat. Et je voulais tester cette recette comme ça. Et justement, la faire un petit peu tester à l'aveugle et pour voir si ça passait et si ça pouvait être une alternative comme ça. C'était vraiment une expérience. Je ne pensais pas du tout que ça allait prendre. Et donc, je lui ai fait goûter une part de gâteau. Et elle m'a regardée, elle me dit « Ah, mais maman, il y a de la betterave dedans ». Et alors là, déjà qu'elle se rende compte qu'il y avait un légume dedans, en plus de la betterave, enfin qu'elle le nomme, je me dis bon, là quand même, je pense qu'on a réussi quelque chose quand même dans l'analyse des goûts et de différencier les fruits des légumes, etc. Et donc ça m'a fait plaisir.
Mais pour réussir ça, ou en tout cas que votre fille le remarque, est-ce que ça veut dire que quand vous cuisinez, vous lui faites goûter, comment vous vous y êtes prise ?
Alors oui, tout à fait. Ça, au démarrage, c'est vraiment goûter chaque aliment, des fois cru, même quand c'est possible, quand ça s'y prête en tout cas. Tout ce qui est les fruits avant de les mettre en tarte ou en compote, ou etc. Voilà, de faire goûter les fruits frais, les légumes, les crudités, voilà. Mais malgré ce chemin qui au début était assez simple et vraiment, elle y prenait beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, à 5 ans, on est dans une autre étape où c'est beaucoup moins facile. Et malgré le fait qu'elle ait été initiée à tout ça, aujourd'hui, elle n'a plus trop envie de goûter les choses nouvelles et différentes. Elle reste beaucoup sur des goûts rassurants et acquis. Et ça m'embête un peu, je vous avoue, ça fait partie de mes préoccupations justement et de mes réflexions. Je crois que c'est une étape assez classique, mais comment on peut aller au-dessus de ça, de comprendre qu'est-ce qui fait que quand elle a eu cette éducation culinaire assez riche, d'un coup, elle se referme un petit peu sur des valeurs sûres et je ne veux plus goûter les légumes verts alors que j'adorais ça avant. Je ne veux que des gnocchis, du jambon blanc et des gâteaux au chocolat. Voilà, pour synthétiser, alors qu'avant, elle pouvait vraiment tester des choses avec plaisir.
Comment vous réagissez du coup ? Comment vous gérez ?
Ça dépend des jours. Pour être tout à fait honnête, on essaie d'être toujours dans la pédagogie et évidemment de ne pas forcer un enfant. C'est quand même jamais positif de faire quelque chose dans la force. Néanmoins, je ne veux pas non plus être dans tant pis, n'y goûte pas et tant pis. Donc c'est vrai que c'est un peu une bataille du quotidien. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres aussi. Bon, tant pis, je laisse tomber, c'est pas grave, mange juste tes gnocchis ou tes pâtes. Mais il y a des moments où on a envie de se battre un petit peu plus avec mon mari aussi, qui lui-même est très présent dans l'éducation culinaire des enfants et dans la vie de famille à ces moments-là. Et c'est vrai qu'on essaie de tenir des positions, mais c'est pas toujours facile.
Est-ce que du coup, vous avez l'impression que votre fille, elle pourrait davantage être attirée par des goûts un peu industriels ou sucrés, justement ?
C'est marrant parce qu'il y a différentes étapes, je trouve, par rapport à ça. C'est-à-dire que comme elle a vraiment commencé son alimentation autour de produits frais, vraiment très peu transformés et assez fait maison quand même, principalement, on va dire, à 90%, aucun problème là-dessus. Et même des fois, on a introduit des produits industriels parce que manque de temps, on achète quelque chose au supermarché, même pas forcément un plat tout fait, mais un paquet de gâteaux, des choses comme ça. Et elle bloquait au début, vraiment, je sentais que son goût n'était pas... ça lui plaisait pas. Un paquet de petits écoliers classiques, elle préférait vraiment mille fois les gâteaux qu'on faisait à la maison avec son papa, qu'elle faisait elle-même. Mais pareil, ça évolue. C'est-à-dire que déjà, l'école, c'est vraiment un facteur qui... on a vu la différence entre la cantine où, généralement, c'est pas bon, je veux pas manger à la cantine, c'est pas bon ce qu'il y a à la cantine. Donc ça se rabat beaucoup plus sur les goûters et les desserts à l'école. Les copains, les copines de l'école qui aussi parlent de choses qu'eux, ils mangent à la maison, de bonbons, de tout ça, c'est normal aussi. Hein, ils échangent ce qu'ils connaissent. Du coup, ça amène l'envie de ces choses-là, qui, à la base, ne l'attiraient pas du tout. Et en plus de ça, évidemment, le marketing des produits alimentaires, quand on va au supermarché avec ses enfants, qu'on fait la queue à la caisse et qu'on a tous les produits près de la caisse avec des couleurs, des bonbons, évidemment, ça les attire beaucoup.
Pile au niveau de la tête des enfants, évidemment.
Bien sûr, exactement.
Qu'est-ce que vous proposez, du coup, pour le goûter à votre fille ?
Alors, moi, je suis vraiment partie du principe que je ne veux pas empêcher mon enfant de vivre dans le monde réel aussi des produits alimentaires. Je vais toujours lui proposer une option
saine, des fruits, déjà des fruits frais pour le goûter par exemple, ça me semble, et même au petit déjeuner, j'essaie qu'il y ait toujours un fruit frais le matin et au goûter. Ça prend pas, mais en tout cas, c'est une proposition qui est sur la table, à laquelle elle a accès. À côté de ça, s'il y a vraiment certains produits que je connais, industriels, qui vraiment lui plaisent, qu'elle adore, je ne vais pas l'interdire. Parce que je pense que plus on va interdire, plus ça va créer, générer une frustration, voire même peut-être un blocage. Et je n'ai pas du tout envie de ça. Donc, je vais avoir quelques produits dans mon placard à gâteau ou à goûter que je peux lui proposer parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Mais il y a certains produits où, par contre, je m'y refuse et qui ne sont pas du tout présents chez moi.
Comme
je ne sais pas si on peut citer des marques, mais comme le Nutella, par exemple. C'est le type de produit-là... pâte à tartiner Nutella, même si je sais qu'il y a des options bio qui existent et qui sont moins pires, mais malgré tout, ça reste des produits que je trouve très addictifs et vraiment qui amènent rien en termes de vitamines, de nutriments, d'énergie. Enfin, c'est absolument, il n'y a rien de bon dedans. Je préfère mille fois, dans ce cas-là, lui acheter une tablette de chocolat, casser un carré de chocolat, le mettre dans un pain au lait, plutôt que d'étaler une pâte à tartiner. Ça, c'est vraiment des produits qu'on n'a pas. Et aussi, dans le rayon yaourt, qui est très, très, très fourni en supermarché. Donc, toujours, j'ai les versions... yaourt nature, compote, etc. Mais évidemment, une petite touche de folie pour quand même amener un peu de fun aussi à la maison. Je vais avoir un viennois ou des choses comme ça. Mais tout ce qui est la gamme avec les petits bonbons à l'intérieur qui croustillent, enfin, qui amènent ces textures un peu rigolotes, mais qui sont 100% chimiques et où il n'y a vraiment rien de bon à l'intérieur, c'est des choses pareilles que je n'achète pas du tout. Mais si je vais au supermarché avec ma fille et qu'elle les voit, évidemment, elle va me les demander. Ça, c'est une évidence. Je lui explique que les produits très sucrés, comme ça, ou très gras, c'est vraiment mauvais pour sa santé. C'est-à-dire qu'on peut en manger un petit peu dans des occasions particulières, comme des goûters d'anniversaire, des fêtes ou des choses comme ça. Ça reste exceptionnel, mais c'est vraiment pas au quotidien.
Est-ce que pour les goûters d'anniversaire de votre fille, est-ce qu'il y a des bonbons ?
Oui, il y a des bonbons, parce qu'effectivement, pareil, comme je l'expliquais, j'ai pas du tout envie d'être vraiment sectaire sur ce principe-là, de ne rien proposer. Je connais un des parents d'élèves de la classe de ma fille, par exemple, qui n'ont rien chez eux, ni la télé, ni un bonbon, ni aucun appareil. Enfin, voilà, c'est, je trouve que c'est un peu austère quand même, parce qu'on vit aussi tous ensemble. Nos enfants sont confrontés à ce qui se passe autour d'eux, donc s'ils se sentent complètement enfermés, je pense que c'est négatif. Donc la question des bonbons, goûter d'anniversaire, on va faire le gâteau maison, ça c'est vraiment partie en plus de notre plaisir familial, mais évidemment il va y avoir les petits dragibus, les petites fraises tagada, les petits nounours qui seront d'une marque industrielle, qui vont pas forcément venir de chez un confiseur artisanal, parce que je pense que à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose qui se joue de qualité, en tout cas. Et donc, voilà, on propose ça. Et les enfants se jettent dessus, il n'y a pas de souci. On canalise un petit peu, de se lâcher, comme on dit, et de profiter.
Est-ce que vous voyez un impact de la consommation du sucre chez votre fille, quand elle en mange, est-ce que vous voyez que ça change quelque chose ?
Absolument. Ça, c'est vraiment frappant. Déjà, donc, on essaie qu'il n'y ait pas de sucre le soir. Donc, même le dessert du soir à la fin du dîner, évidemment, elle a envie d'un truc sucré. Comme elle le dit, je la cite, « Je veux un truc sucré, maman ». C'est vraiment sa phrase. Très sucré, de préférence. C'est arrivé à certains moments que le soir, on lui donne un yaourt au chocolat ou des choses un petit peu... où il nous restait du gâteau, même un gâteau maison, hein, même quelque chose de pas industriel, qui nous reste à la maison qu'on donne le soir. Alors, on sait qu'elle ne va pas se coucher avant 22h. Là, c'est au lieu d'un 20h30 classique. Tout de suite, elle va être très énervée, elle va vraiment sauter partout, même un peu agaçante. Enfin, ça génère vraiment tout de suite, le quart d'heure après avoir mangé un produit sucré, le soir, c'est impossible. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout le soir parce qu'on l'a vraiment... on en a souffert à certains moments et on a tiré les leçons de nos erreurs.
Cette sensibilisation par rapport au sucre, à l'impact que ça peut avoir sur le comportement des enfants, c'est quelque chose que vous connaissiez avant l'arrivée de votre fille ou vraiment que vous avez découvert en vous informant une fois qu'elle était dans votre vie ?
C'est venu en fait avec la grossesse parce que il se trouve que alors avant d'avoir mes enfants j'ai toujours une alimentation assez raisonnable mais avec des petits plaisirs, des petits craquages assez réguliers quand même, on va pas se mentir, mais en fait quand je suis tombée enceinte, j'ai fait du diabète de grossesse qu'on appelle le diabète gestationnel qui maintenant apparemment est assez classique et fréquent, mais j'en avais jamais entendu parler avant. Alors là, ça a été la douche froide. J'ai vraiment fait une grossesse où j'avais droit à zéro sucre et le sucre vraiment pas que le sucre des desserts et des bonbons, le sucre qu'il y a dans les sucres lents, les pâtes, le riz, tout ce qu'on peut manger, le pain, la base de notre alimentation, hormis les légumes et les protéines, il y a du sucre quasiment dans tout. Et cette grossesse, pour mes deux grossesses, ça a été pareil, ça a été très difficile pour moi parce que j'en avais très envie et j'ai dû faire un régime drastique que j'avais jamais fait avant. En plus, en étant enceinte, où on a la fatigue, les envies, enfin tout ce que ça entraîne évidemment. Mais grâce à ça, bon déjà, quand j'ai accouché, je faisais 8 kilos de moins qu'avant d'avant ma grossesse. Donc j'ai envie de dire que ça a été très bénéfique au moins à ce niveau-là. J'ai pas eu le problème de perdre les kilos de grossesse. Mais à côté de ça, grâce à ce problème, entre guillemets, j'ai déjà fait des ateliers à l'hôpital, à la maternité, de sensibilisation sur comment bien se nourrir pendant sa grossesse. Et très sincèrement, j'y suis un peu allée en me disant, ça va, je connais les principes quand même et tout ça. Et en fait, pas du tout. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris à décrypter les étiquettes ingrédients des supermarchés. Ce que je faisais pas du tout avant. Et alors là, ça a été aussi la douche froide et la grosse surprise sur beaucoup de produits où je pensais que c'était des produits sains et en fait pas du tout.
Vous avez un exemple ?
Déjà, tout le rayon gâteau, tout ce qui est biscuits, etc., il y a des gammes qui sont censées être allégées ou plutôt bio, sains, etc. Tous ces produits-là, déjà, en vrai, sont hyper mauvais pour la santé. Donc ça a été pas d'alternative possible. Et toutes les boissons, pareil, censées être sans sucre, etc., pas du tout. Et en fait, on se rend compte que du sucre, il y en a partout. Il y a du bon sucre, il y a du mauvais sucre, mais ça m'a vraiment appris, en tout cas, à décrypter les jus de fruits aussi. J'étais persuadée que boire un jus d'orange le matin, c'était bien. Ce que je faisais au début avec ma fille, justement. Le petit déjeuner, on a cette vision de la pub un peu parfaite, avec le petit bol de chocolat au lait, le croissant et le jus d'orange. Alors, pas du tout, et on enlève quasiment tout ce qu'il y a sur cette table-là, parce que le jus d'orange industriel, il n'y a aucune valeur nutritive et c'est bourré de sucre. Maintenant, je préfère l'option de presser mon orange moi-même le matin. Alors, c'est difficile pour les autres fruits, effectivement, le matin. Mais en tout cas, l'orange pressé du matin, c'est ce que je propose comme jus à ma fille et pas les jus en bouteille, par exemple.
Et qu'est-ce que vous lui proposez d'autre aussi pour le petit déjeuner, qui est un repas souvent quand même très sucré ?
Alors effectivement, pareil, ça m'a beaucoup sensibilisée sur le petit déjeuner, parce que moi-même, j'ai dû faire cet exercice-là. Et donc aujourd'hui, le petit déjeuner, on va dire classique, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un fruit frais. Ça, c'est vraiment, pour moi, obligatoire de démarrer avec cette proposition-là. Donc ça peut être une banane, une pomme, une clémentine, un kiwi. Le kiwi, par exemple, ça, c'est vraiment le fruit génial pour les enfants. Ça leur donne plein d'énergie. Ils ont après du peps toute la journée. Je propose un laitage, parce que c'est vraiment très important pour les enfants d'avoir tout à chaque repas. C'est d'ailleurs sur les conseils de mon pédiatre que je vois toujours pour faire le suivi régulier. Il me dit, un laitage à chaque, sous la forme d'un fromage, d'un yaourt, d'un verre de lait, qu'importe, mais un laitage pour leurs os, etc. Donc c'est sous cette forme-là. Ma fille adore le lait chaud au miel. Donc le miel, c'est plutôt un sucre, ça reste du sucre. Si on en mange à chaque repas, évidemment, c'est pas bon, mais ça reste quand même quelque chose de naturel et plutôt qualitatif et avec beaucoup de bienfaits aussi. Donc je fais le lait chaud avec le miel en hiver. Et quand elle veut un chocolat au lait, je lui propose plutôt l'alternative de chocolat sans sucre comme Valrhona. Parce que c'est vraiment des chocolats de qualité, ou Van Houten, qui est vraiment le chocolat que tout le monde connaît, un peu amer parce que sans sucre. Je rajoute moi-même un petit peu de sucre, mais je le dose moi-même. J'ai la vision de ce que ça représente. Contrairement à des marques comme Nesquik ou Banania, etc., qui, en fait, on se rend compte que dans un bol de lait, en fait, il y a peut-être 8 cuillères de sucre. On s'en rend pas compte, nous, quand on verse nos cuillères, et c'est très addictif. Donc voilà, j'essaie de tempérer, j'amène ce qui lui fait plaisir en contrôlant et sans la frustrer. C'est un équilibre à trouver. Et après, pareil, des céréales. Des céréales sous forme plutôt de pain, pain de mie, pain au lait. Mais pareil, les céréales, comme nous, on avait des enfants des années 80-90, on a été élevés au Kellogg's, et de toutes ces choses-là, qui en fait aujourd'hui sont à proscrire également, à mon sens en tout cas, parce que c'est vraiment aucun bienfait pour les enfants, c'est que du sucre. Et donc, soit des céréales sans sucre, on en trouve, il n'y en a pas énormément, et surtout pour les petits-enfants, c'est pas très rigolo, on va dire, ça ne les branche pas trop, le granola ou autre, sous forme de pain, pain de mie, pain au lait, etc.
Est-ce que vos enfants mangent du chocolat ?
Alors, la grande, oui, parce que la petite est encore à la que 10 mois, donc ça, pas pour l'instant, mais ça va venir très vite à mon avis, mais la grande est absolument fan de chocolat. C'est évidemment, je pense que si je lui demande quel est ton ingrédient, enfin, qu'est-ce que tu préfères manger au monde, elle me dira le chocolat. Elle me tanne rien que quand elle voit une publicité dans la rue, une affiche, un magazine, qu'importe. S'il y a du chocolat, elle va me le montrer parce que ça lui fait tout de suite très envie. Donc oui, elle mange très régulièrement du chocolat.
Quel chocolat elle mange ?
du noir, du blanc, du lait.
Alors, j'ai peut-être fait un petit peu l'erreur de commencer parfois avec des chocolats, justement de grande distribution, des marques des chocolats comme Milka, parce que moi, en tant qu'adulte, c'est un peu mes petits plaisirs coupables, on va dire. Donc il y a ça, il y en a un petit peu à la maison, et donc un petit carré par-ci par-là, chocolat au lait, et tout de suite ça a pris. Il y a pas de problème, elle a tout de suite adoré ça, et donc après il y a eu Pâques, les moments de dans la vie des enfants, Pâques, Noël, ce sont des fêtes de famille, mais où les chocolats sont assez présents. Donc ça, les œufs de Pâques, etc., ça a été aussi beaucoup de chocolat à profusion pour elle. Elle a adoré ça. Et donc, Kinder, c'est aussi le côté jouet ludique. Je ne vais pas l'empêcher de manger un Kinder, en plus si elle est avec ses amis ou quand elle est invitée, qu'on va chez d'autres personnes qui ont des enfants, je ne vais pas l'empêcher de manger un produit que, même si je sais que ce n'est pas génial. Elle va aller vers les chocolats au lait très sucrés. Moi, j'aime ça aussi, mais je me raisonne en tant qu'adulte, on va dire. Et j'essaie de lui faire découvrir d'autres propositions, mais ce n'est pas évident pour le chocolat.
Ouais, le chocolat noir, à 70%, ça ne passe pas.
Pas trop. En tout cas, ce n'est pas ce qui va l'attirer de prime abord. Moi non plus, pour être tout à fait honnête, mais...
Vous, quel est le chocolat que vous préférez ?
Plutôt au lait, donc même si je sais qu'effectivement c'est pas le meilleur en termes de composition, c'est plus. J'ai été élevée aussi, pareil, c'est mes goûts d'éducation culinaire. C'est aussi pour ça que c'est très important aujourd'hui pour moi de dès le départ avec les enfants leur apprendre à goûter les bons ingrédients. Parce que nous, en tant qu'adultes, quand on regarde en arrière sur notre consommation de notre enfance, les marques dont on va se souvenir et ce qui a créé notre palais aussi et comment on se nourrit aujourd'hui, ça a vraiment un impact très fort. Donc moi, je suis une enfant des années 80-90, élevé au Kinder et au Kellogg's. Et clairement, c'est toujours mes goûts aujourd'hui, mais je me force quand même à pas trop manger. Donc je propose quand même à la maison, pour toute la famille, d'avoir des chocolats d'un peu meilleure qualité. Mais je suis des fois un peu perdue sur comment bien les choisir.
Vous avez l'impression d'essayer de rééduquer votre goût ?
Tout à fait. Tout à fait. J'ai l'impression, pourtant, je viens quand même d'une famille où l'alimentation, c'était important. J'ai beaucoup de souvenirs en étant petite d'avoir fait la cuisine avec ma maman, ma grand-mère. Enfin, des moments comme ça où, c'était pas du surgelé. On mangeait que du fait maison et c'était plutôt, c'était simple, mais bon. Mais c'est vrai que la partie produits pour enfants, que ce soit tous les souvenirs que j'ai, que ce soit les glaces, les gâteaux, le petit déjeuner, avec du recul, c'est quand même vraiment des produits assez mauvais. Et on a été élevé à ça et c'est dur de s'en sortir, je trouve, d'avoir d'autres propositions parce que de prime abord, ça va quand même moins m'intéresser et moins me faire envie un petit déjeuner ultra light, un repas ultra light avec que des produits hyper sains. Je vais être attirée plus par le chocolat au lait, les produits plus sucrés, les tartines, les choses comme ça. Donc oui, je fais, depuis que j'ai des enfants, pour moi, c'est, je ne vais pas dire le mot combat, c'est un peu fort, mais en tout cas, c'est une vraie réflexion au quotidien, une recherche de toujours s'améliorer sur ce qu'on propose.
On recommande souvent des lectures, des vidéos, des podcasts. Est-ce qu'il y a quelque chose, Niki, que vous aimeriez recommander aux parents qui nous écoutent ?
Alors moi, c'est vrai que j'ai puisé beaucoup d'idées à travers des blogs. Je vous avoue que je n'ai pas forcément de nom en tête, mais les blogs pour trouver des idées un petit peu originales pour leur faire manger des légumes, parce que des fois, on est un peu à court d'idées, on est fatigué, on travaille, on n'a pas forcément toujours le temps d'être à fond sur le sujet. Donc les blogs, ça m'a beaucoup aidée. Après, je suis abonnée à des magazines aussi, comme Vital Food ou Elle Magazine, qui me permettent d'avoir pareil des idées, puis de savoir un peu ce qui se fait dans les nouveautés tendances. Ce que je recommande, c'est surtout de faire avec ses enfants, de le faire ensemble, de créer ensemble, parce que déjà, eux, ils nous donnent des idées aussi, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, de prendre plaisir à faire la cuisine, donc plaisir à manger, plutôt des bonnes choses.
On entend en effet que ce sont vraiment des moments de plaisir partagé dans votre famille. Merci beaucoup, Niki. Comme je le disais au début de l'épisode, on va retrouver Victoire Finaz pour discuter avec elle de tout ça. Bonjour Victoire Finaz.
Bonjour Mathilde.
Tu es chocologue, spécialiste du cacao et du chocolat. Tu es formatrice depuis plus de 15 ans. Tu animes des ateliers autour du chocolat, de la dégustation. Tu crées également des chocolats pour les entreprises, mais aussi pour le grand public. On peut retrouver tous ces chocolats dans ta boutique rue Faraday, dans le 17e à Paris, et en ligne également. Tu es l'autrice de plusieurs livres. Alors il y a Chocolat, Super Chocolat, et ton dernier qui est Chocolat du plaisir à la santé, que tu as coécrit avec le docteur Afid Alol, qui est médecin nutritionniste. Victoire, quelles sont tes réactions à l'écoute du témoignage de Nikki ?
En écoutant Nikki, c'est vrai que on se rend compte en fait de la responsabilité des parents quand on est parent, de ce qu'on met dans son panier au supermarché. Évidemment, en tant que mère de deux filles, j'ai les mêmes préoccupations et j'ai les mêmes combats. Mais c'est vrai que je rejoins Nikki sur le fait que j'interdis certains aliments à la maison. Donc voilà, on parlait du Nutella, de tout ce qui est très produit sucré, tout ce qui est transformé, tout ce qui est bonbon, tout ce qui est jus. Il n'y a pas de soda, on boit de l'eau ou rien. Et en fait, cette discipline permet d'éviter les tentations inutiles à la maison. Parce qu'en fait, les enfants, il ne faut pas se leurrer, hein, ils ouvrent les placards, ils grimpent, ils mettent des chaises et puis ils vont chercher les choses qui leur font envie au moment où ils veulent. Même moi, j'ai retrouvé derrière les radiateurs des paquets de gâteaux. Enfin bref, je retrouve toujours des bonbons, je ne sais pas comment ils atterrissent chez moi. Voilà, donc c'est le parc, c'est les enfants et ça, c'est insupportable parce qu'ils savent très bien que je suis contre les bonbons et que j'interdis ça. Alors oui, je fais une exception pour l'anniversaire, mais c'est une fois par an et encore, ils commencent à être invité, donc c'est l'exception de commence à être très, très récurrente à leur âge. Mais en fait, cette discipline et le fait qu'on ait des convictions en tant que parents, les enfants le savent, le voient, et donc du coup, ça pose un cadre. Donc en fait, cette discipline, je pense que si jamais on veut changer l'alimentation des enfants, si on veut les éduquer, la première chose à faire, c'est de s'imposer une discipline en tant que parent, quitte à l'écrire, se mettre d'accord avec son mari en disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on interdit? Qu'est-ce qu'on autorise? Qu'est-ce qu'on achète ?» Ça, c'est la première chose à faire.
Nikki, est-ce que vous avez des questions pour Victoire ?
Alors oui, Victoire, moi je me posais la question par rapport donc au chocolat pour les enfants, à partir de quel âge on peut en fait commencer à faire goûter du chocolat aux enfants ? Parce que moi, ma fille, c'est venu un peu pendant le confinement, donc elle avait voilà, à peu près 18 mois, on a fait un petit peu goûter des choses, mais est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce qu'il y a un âge idéal pour démarrer
Et puis peut-être avec quel chocolat on
commence. Ouais, en fait, c'est ça, l'important, c'est quel chocolat on donne. Et d'ailleurs, c'est l'objet de mon dernier livre, Chocolat du plaisir à la santé. C'est un livre que j'ai écrit à la demande de toutes ces personnes qui se demandent, mais c'est quoi le bon chocolat ? En fait, comment on choisit son chocolat ? Qu'est-ce qu'il faut déguster ? Et même ma famille, alors que bon, ils ont quand même une chocologue à leur côté, se posent ces questions-là. Et quand j'ai vu que mes sœurs ne savaient pas quoi acheter en supermarché et me posaient la question, je me suis dit, ok, il faut que j'écrive un livre pour justement expliquer c'est quoi le bon chocolat ? Quelles sont les offres qu'on a, que ce soit en supermarché, chez les artisans, et comment on choisit ? Donc, je pense qu'on va évidemment en parler. Pour répondre à la question de Nikki, moi, je préconise l'introduction du cacao et non pas du chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, lui, quand un bébé naît, il a une appétence très naturelle pour les produits sucrés et gras. Et c'est pour ça que le lait maternel ou le lait qu'on donne à un enfant est quelque chose de très apprécié par le bébé. Ce sont des saveurs, ce sont des sensations, c'est une appétence innée. Et donc du coup, on sait que l'enfant, de toutes les façons, il va aimer ce qui est gras et sucré. Donc en effet, on lui donne du chocolat blanc, du chocolat lait très gras, il va aimer. Tout ce qui est produit gras et sucré, il va aimer. Donc en fait, c'est quoi l'éducation du goût ? C'est de se dire, ok, maintenant, on sait qu'il aime ça. Et c'est ça qui est dur quand on commence à faire la diversification alimentaire, c'est de lui introduire des choses qui sont pas grasses et qui sont pas sucrées. Et par exemple, les légumes. C'est le combat de la diversification alimentaire. C'est de lui présenter un truc vert, qui est absolument pas gras, genre le brocoli, et qui n'est pas sucré. Et c'est très important parce que ces goûts, ça va être un apprentissage et donc un process d'acquisition. Et c'est notre rôle de parents, justement, d'être dans cette transmission et de leur apprendre à acquérir, à développer leur goût pour commencer à aimer des choses que naturellement, ils aiment pas. Donc, il faut pas être brusqué en tant que parent. C'est normal qu'un enfant refuse certains aliments. Mais je pense que la règle, c'est de le présenter. Et Nikki le disait très bien, je présente sur la table des aliments. L'enfant a envie ou a pas envie, mais il faut que ce soit une option accessible pour lui.
Et donc le cacao, à partir de quel âge il peut être introduit ?
Et le cacao, donc moi je pense qu'à partir de 1 an, on peut commencer à mettre une cuillère de cacao donc non sucré, comme le cacao Van Houten par exemple, dans le biberon. Voilà, ça colore le biberon, c'est du coup un petit peu plus sympa que tout blanc fade, et ça apporte un goût. Et en fait, l'intérêt d'apporter le cacao, c'est que ça lui apprend le goût du cacao. Et pas le goût sucré. Parce que le chocolat, ça veut pas dire sucre. Si jamais un chocolat est très sucré, pour moi c'est une confiserie. C'est pas du chocolat. Le chocolat, c'est un goût de cacao. Donc à partir du moment où on s'éloigne du goût cacao, on passe dans la famille des confiseries où le sucre prend le dessus sur le goût du cacao.
Donc d'abord
du cacao voilà, en poudre non sucrée. Et à quel moment on peut donner un carré de chocolat, voilà, faire, j'en déduis dans ce que tu viens de dire, que ça sera plutôt un chocolat très cacaoté, donc 70-80% de chocolat, alors que c'est pas du tout finalement instinctif.
C'est
en tout
pas
cas,
du
en
tout instinctif
parent,
parce que du coup on en dit, oh là là, elle va pas aimer le chocolat noir, enfin mon enfant. Alors c'est vrai que c'est pas du tout instinctif, mais je pense que c'est vraiment intéressant de faire l'expérience, parce qu'un enfant, quand vous lui présentez du chocolat noir, sachant qu'il ne connaît pas le chocolat, et ben en fait, on va lui découvrir l'ingrédient cacao. Il aime ou il aime pas, ça c'est son goût, et son goût va évoluer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais en tous les cas, on lui présente le chocolat comme ayant un goût de cacao. Et ça c'est très important, parce que si jamais on présente le chocolat comme ayant un goût de sucre, il va aimer le chocolat pour son sucre, pour son côté sucré et ses saveurs. Donc moi je pense que c'est vraiment important, et moi je l'ai vu avec ma fille, je lui ai toujours présenté du chocolat noir, donc c'était un chocolat noir 70%, 65%, 60%, voilà, on n'est pas obligé de taper non plus dans le 80%, hein. Il ne faut pas l'agresser, et d'ailleurs j'ai envie de vous dire que quand on prend un bon chocolat chez les artisans, même un 80% peut être très doux et très agréable. Donc en fait, pour moi, c'est plutôt l'offre en supermarché qui pose problème et qui invite à penser que le chocolat très fort en cacao est amer et pas bon. Ça, c'est des problèmes de qualité, c'est pas des problèmes de chocolat noir. Je connais plein de chocolats noirs qui sont forts en pourcentage et qui sont très doux, qui ont des notes végétales, qui ont des notes d'épices douces, de pain d'épices, et ça devient super gourmand alors qu'on a un 75% ou un 80%. Donc ça, c'est vraiment la qualité, mais on pourra en parler après. En tous les cas, voilà, présenter un carré de chocolat noir, ça permet de présenter le chocolat avec son ADN cacao.
Niki, est-ce que vous avez une autre question pour Victoire ?
Justement, en parlant d'offres de chocolat, est-ce que vous avez un conseil, Victoire, quand on est au supermarché pour aller faire nos courses ? Le rayon chocolat est immense. Alors, effectivement, moi, je sais, voilà, les chocolats au lait assez très sucrés, je ne vais pas déjà dans cette rubrique-là, mais dans cette section-là, il y a une rubrique avec tous les chocolats noirs, il y a du bio, du équitable, enfin, il y a une grande variété. Qu'est-ce que vous recommandez déjà pour faire notre choix ? Et est-ce que vous avez des marques de prédilection ou des conseils ?
Alors moi, c'est vrai que le chocolat, c'est un amour profond hein, que j'ai depuis longtemps. Et aujourd'hui, personnellement, je n'achète pas de chocolat en supermarché. Je préfère, et je vois d'ailleurs que ça soit ma consommation personnelle ou celle des enfants, quand on achète un chocolat très qualitatif et très aromatique, un petit carré suffit pour complaire l'envie de chocolat et ce goût cacao qu'on recherche, ou même cette note gourmande qu'on recherche. Parce que en fait, quand on mange un chocolat, on a envie de se faire plaisir et on cherche quand même de la gourmandise. Donc c'est vrai que par exemple, chez moi, j'ai aucune tablette de supermarché. Je préfère voilà, investir dans un bon chocolat et leur montrer vraiment à quel point le chocolat peut avoir des notes de fruits confits, d'épices douces dont je parlais. Donc ça, je le fais même avec mes enfants. Après, moi, en supermarché, il y a quand même des chocolats qui sont tout à fait acceptables. Et donc, du coup, c'est peut-être le moment d'en parler. Déjà, pour les enfants, comme je disais, il faut mieux proposer des chocolats noirs. J'attirais même l'attention sur les pièges à éviter en supermarché. Je voudrais pas les dénoncer et avoir une attaque suite à ce podcast. Par exemple, la marque Poulain propose un chocolat extra noir. Et donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui achètent ce chocolat. Et en fait, quand on retourne à la tablette, on voit que le pourcentage de ce cacao, c'est 52%. Et 52% pour un chocolat noir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le reste du pourcentage, c'est du sucre ajouté. Donc là, si on fait le calcul, ça veut dire que dans ce chocolat, il y a 48% de sucre. Soit, on va se le dire, la moitié de la tablette. Donc en fait, il ne faut pas acheter n'importe quel chocolat noir. Il faut acheter un chocolat noir, évidemment, moins sucré. Et c'est pour ça que j'invite à acheter de la qualité, parce qu'en fait, quand on achète un cacao qualité, on a des arômes. Et en fait, c'est très important de faire la différence entre les saveurs, dont la saveur sucrée, et les arômes qui sont le goût, c'est-à-dire le fruit, les épices, le côté végétal, le côté pain de mie. Enfin, on peut trouver vraiment énormément d'arômes dans le chocolat. Et d'ailleurs, pour sensibiliser mes enfants aux saveurs et au goût, je fais parfois, quand je suis dans la cuisine avec elles et qu'on prépare un plat ou qu'on prépare un gâteau, je leur fais déguster les aliments, les ingrédients seuls. Et je leur pose la question, c'est quoi la saveur ? Parce qu'en fait, je me rends compte qu'elles ne savent pas. Ça veut dire quoi acide ? Ça veut dire quoi amer ? Ça veut dire quoi ? Bon, sucré, ça, elles connaissent très bien. Mais par exemple, voilà, on fait un gâteau, je leur fais goûter la farine. Je dis, c'est quoi comme saveur ? Ben, la farine, c'est amer. La farine n'est pas sucrée. Et en fait, l'amertume, c'est l'opposé de sucré. L'amertume, c'est tout ce qui n'est pas gorgé de sucre. Donc ça va être de la roquette, ça va être un pamplemousse, ça va être la farine. Après, il y a des différents degrés d'amertume, parce que l'amertume peut être accompagnée d'un côté très fort comme la roquette, ou même d'un côté un petit peu âpre ou rugueux, comme le roquefort par exemple, ou astringent même, qui resserre les papilles. On a une sensation de sécheresse en bouche. Mais en tous les cas, voilà, je fais un petit exercice hyper ludique. Le vinaigre, voilà, c'est acide. Le citron, c'est acide. Donc des petits ingrédients qui sont sur la table. Et par exemple, la moutarde, c'est salé. Ça, c'est des petits jeux déjà pour initier aux saveurs. Et la saveur, ça se passe sur la langue. Et après, les arômes, le goût, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus envahir la cavité de la bouche et du nez, parce que, en fait, le goût, on ne le sait pas, mais physiologiquement, le goût se capte avec le bulbe olfactif qui est vraiment dans la cavité nasale.
On va revenir sur tout ça dans la deuxième partie, Victoire, mais du coup, pour répondre à la question de Niki, même si on a bien compris, voilà, que tu as envie de tous nous inviter à choisir correctement notre chocolat et à plutôt se tourner vers des artisans qui travaillent le cacao et qui font attention justement
et qui achètent des bonnes matières premières.
Voilà. Mais malgré tout, on est en supermarché, on veut acheter du chocolat soit pour le déguster, soit pour cuisiner. Qu'est-ce qu'on achète ?
Il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Éthicable, qui est une marque qui travaille avec des coopératives dans les pays producteurs. Et déjà, le sourcing est vraiment en toute transparence. Il y a une grande traçabilité. Ça aide aussi au financement dans les pays producteurs. C'est un travail main dans la main avec des coopératives. Et donc, du coup, on sait que ça aide des communautés très précises qui sont aussi engagées parce qu'il y a un cahier des charges de la part de la société. Donc, du coup, on sait qu'il y a un cahier des charges au niveau de la qualité du cacao qui est processé. Et donc, du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus de ça, cette marque propose différentes origines avec des saveurs différentes. Donc, on peut s'amuser vraiment à acheter leur Pérou, leur Équateur, leur Ghana, et se dire, bah tiens, moi j'aime plutôt le Pérou parce que je retrouve des notes un petit peu fruitées, ou je préfère l'Équateur parce que je suis plus sur la fleur et le végétal. Et donc du coup, je trouve que c'est pédagogique et gustativement, c'est intéressant. Donc chocolat noir, je préconiserais cette marque, et en chocolat au lait, je préconise des chocolats intenses en cacao. Et ces chocolats intenses en cacao, en fait, il faut savoir que la réglementation pour un chocolat au lait invite à un pourcentage autour de 35%. Donc si jamais on retourne toutes les tablettes de chocolat au lait, vous verrez souvent 30-35% de cacao. Éthicable, par exemple, propose des chocolats au lait, 56% de cacao, 53% de cacao. Et pour moi, c'est très intéressant d'avoir un chocolat au lait au-delà de 50% de cacao, parce que déjà, on a beaucoup plus de goût cacao, et c'est ce qui m'intéresse, moi, justement, quand je propose un chocolat. Du coup, ça veut dire, par définition, c'est moins sucré, parce qu'il y a plus de cacao. Et donc du coup, voilà, ça invite à la gourmandise, au côté très crémeux qu'on adore dans le chocolat au lait. Moi, je suis une grande consommatrice de chocolat au lait, donc c'est pas parce que je suis chocologue que je ne mange pas de chocolat au lait, au contraire, mais je mange des bons chocolats au lait. Donc si jamais je dois me servir en supermarché, aujourd'hui, je me tournerais plutôt sur cette marque-là, parce que je trouve qu'il y a un vrai effort au niveau de la traçabilité et du goût, et de la qualité.
Et pour cuisiner, on achète Nestlé dessert, Poulain dessert.
Pour cuisiner, c'est sûr qu'il faut acheter déjà un chocolat à pâtisser, parce que pour les femmes qui cuisinent dans leur maison, elles ont dû faire l'expérience que prendre un chocolat de dégustation, ils font des pas très bien au fond de la casserole. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les chocolats à pâtisser, c'est une recette particulière qui est enrichie en beurre de cacao. C'est fait pour pâtisser, parce qu'en fait, quand on fait fondre le chocolat dans la casserole, on attend à ce que la préparation soit homogène, soit lisse. Et donc du coup, ces chocolats sont enrichis en beurre de cacao pour permettre une meilleure fonte et un meilleur travail du chocolat pour la pâtisserie. Donc c'est une gamme tout à fait destinée à la pâtisserie, donc autant prendre ça, parce que c'est beaucoup plus pratique. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'utilise du Valrhona, ou du chocolat de couverture qu'on peut trouver dans des épiceries un peu spécialisées, comme je pense à G2Tout, qui est rue Ticton à Paris, dans le 2e arrondissement. Mais sinon, voilà, Valrhona vend ses pastilles à pâtisser sur Internet. Leur site, c'est Valrhona Ensemble. En 3 clics, on se fait livrer chez soi. Et on a du super chocolat qui fond bien, qui est ultra brillant, qui est facile, qui est délicieux. Et voilà, moi, je préconise plutôt, même pour la pâtisserie, pour un gâteau, d'utiliser un bon chocolat.
Merci beaucoup Victoire, merci beaucoup Niki d'être venue partager avec nous votre amour, quand même, j'ai envie de dire, de la cuisine et des bonnes choses. Merci de nous avoir écoutés. Dans la deuxième partie de cet épisode, qui sort la semaine prochaine, Victoire Finaz reviendra avec moi de façon plus détaillée sur ce qu'est éduquer le goût des enfants, pourquoi c'est important, comment peut-on faire, quelles peuvent être les activités qu'on peut proposer, partager avec ses enfants. Elle nous donnera également plein d'informations concernant les sucres, comment les gérer dans l'assiette de nos enfants. Et on parlera évidemment aussi de chocolat et pourquoi est-il bon pour la santé. À la semaine prochaine. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.